Je voudrais aborder ce matin un sujet important que la parole de Dieu, sujet très vaste en fait, mais aussi complexe. Complexe, allez voir pourquoi. Et non, je vais demander, s'il te plaît, à Léa de mettre la première diapo. Voilà, on va aller dans le psaume 32, si vous voulez bien lire avec moi. C'est pas parce qu'il est affiché que vous ne pouvez pas amener votre Bible, hein, s'il vous plaît. Hein. Voilà, vous pouvez avoir votre Bible, bien sûr. Si vous avez du mal, bien sûr, à lire ou si vous avez écrit petit dans votre Bible, achetez une Bible plus grosse. Voilà, hein. Sinon, vous pouvez suivre ici. Voilà. Psaume 32, je fais de la pub pour le stand, la bibliothèque. Psaume 32, verset 8. C'est un psaume de qui? Pardon? Qui est l'auteur? Ça, je vérifie qui a ouvert sa Bible. Hein, c'est David. Psaume 32, verset 8 et 9. Dieu de dire, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, pardon, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Amen, amen. Hein? Ici, la voie que tu dois suivre. Je voudrais vous parler de ce sujet délicat et parfois complexe. Hein? C'est comment savoir si nous sommes dans la volonté de Dieu. Des fois, c'est simple, mais des fois, c'est complexe. Des fois, c'est particulier. Dans certains moments de notre vie, il peut arriver qu'on ait du mal à distinguer la direction divine. Alors bien sûr, on connaît globalement les intentions de Dieu, on connaît certains passages bibliques, etc. Mais il y a une confusion avec nos propres désirs, nos intentions, nos mobiles, et on peut avoir des préjugés, des déductions qui sont là, qui sont faites. Et c'est ainsi que des fois, ça vous est tous arrivé de parler avec un frère ou une sœur, et quand vous parlez d'une situation, le frère ou la sœur le présente comme ceci, mais vous vous dites, ah, mais moi je ne vois pas du tout comme ça. Hein? Et c'est pas que l'un a raison, l'autre a tort, mais c'est que chacun, sous sa vie, selon le filtre de sa vie, de ses conceptions, va voir les choses d'une certaine manière, et l'autre le voit un petit peu différemment. Je dis pas que la volonté de Dieu, elle a multifacette, j'ai pas dit ça, mais il est vrai que notre nature est là. Et parfois, la marge, je dirais, mince entre la direction divine et les autres formes de direction qu'on peut avoir. Hein? Ce qui fait que même les plus malins parmi nous, il y en a. Ouais. Les plus malins, ils n'osent pas lever la main. Les plus malins parmi nous peuvent s'y tromper. Qui ne se trompe jamais? Un seul Dieu ne se trompe pas. Mais nous, nous nous trompons. Alors la volonté de Dieu est compliquée à percevoir dans certains moments, car elle doit traverser tout notre être, je le répète, nos émotions, nos intentions, nos mobiles, également l'état de vie qu'on a, la santé morale, physique. Si quelqu'un souffre, il n'a pas la même réaction que quelqu'un qui ne souffre pas, etc. Et on sait très bien que c'est compliqué parfois. Ce n'est pas parce que, aussi, je voudrais préciser ça, parce que des fois j'ai l'impression qu'on veut stéréotyper les choses, c'est pas parce que, je reviendrai tout à l'heure à ce sujet, ce n'est pas parce qu'il nous a conduits de telle manière un moment qu'il fera toujours ainsi. D'accord? Des fois, il y a ce sentiment que on a vécu ça, et c'est comme ça que ça doit être vécu pour tout le monde, et tout le monde doit passer là. Mais non, parce qu'on est différent. Rappelez-vous, à Jéricho, ils ont tourné autour de la muraille. À Haï, bon, ils ont pris une raclée à Haï, hein, ils étaient moins nombreux. Pourtant, ils n'ont pas tourné autour. Hein, ils n'ont pas tourné autour. Et jamais plus ils ont tourné autour de la muraille, parce que Dieu ne leur demandait pas. Et dans notre vie chrétienne, faisons attention de ne pas croire que parce que j'ai vécu ça comme ça, il faut que ce soit toujours comme ça, parce qu'on peut se tromper. Ce serait un problème comment dire, on limiterait Dieu à ce qu'il est. Mais Dieu, vous croyez qu'il est dépourvu de comment faire? Et je me surprends toujours à me dire, mais pourquoi tu dis à Dieu ce qu'il doit faire? C'est lui qui doit te dire ce que lui veut que tu fasses. Alors, le plan de ce matin, c'est, je voudrais vous donner quelques précisions, il y aura tout à l'heure une suite. Hein, des précisions qui ont si vous voulez, des bases pour vivre dans la volonté de Dieu. Et puis, on verra dans un second temps comment il nous guide. Comment il nous guide vraiment. Comment peut-on mieux comprendre le dessein de Dieu pour nous. Hein, genre, j'ai pas de. Soyons honnêtes, hein, je vais pas pouvoir tout aborder ce matin. Et c'est une évidence. La volonté de Dieu, c'est immense. On pourrait faire 10 réunions. Je suis sûr qu'on pourrait en parler longuement. Mais la première des choses, c'est que je voudrais donner des bases. Alors, je me rappelle plus mon PowerPoint, mais bon, c'est pas grave. Je fais confiance. Ouais, pas encore, s'il te plaît, voilà. Je fais confiance à notre sœur, hein, et merci à ceux qui sont à la technique, j'en profite, priez pour eux, c'est pas facile d'être toujours là, ceux qui vivent, les pasteurs ils sont pénibles, les chantres ils font des pirouettes et tout, donc, non il n'a pas fait de pirouette Fabien, mais vous comprenez, hein, ils font des choses un peu spéciales. Il y a deux extrêmes à éviter dans la volonté de Dieu. Je dirais ainsi, alors permettez-moi de caricaturer, mais je ne me moque pas parce qu'on s'y retrouve un jour ou un autre. D'un côté, vous avez certains de dire que Dieu a parlé par son Fils dans les Écritures et que tout s'arrête là. Que Dieu ne peut plus comme nous guider parce que tout a été dit dans les Écritures. Il suffit juste que tu regardes les Écritures, tu vas y arriver. Voilà. Hein. Et il y a comme une volonté aussi peut-être de dire la vie de l'esprit, c'est que de la théorie, quoi. Parce que, ben voilà, peut-être on n'aime pas, voilà, les pentecôtistes, ils exagèrent. Hein. Et c'est vrai que des fois, ils exagèrent. Ils sont pénibles, les pentecôtistes, un petit peu. Hein. Et pour certaines choses, ils pensent qu'avec un peu de bon sens et de la connaissance biblique, on va y arriver. Eh bien, je crois que des fois, il faut des orientations très spéciales. Il faut des orientations précises que nous devons prendre parfois dans notre vie, des choses importantes. Je pense à nos jeunes. Hein, un jour, je le souhaite, si vous le voulez vous-même, vous allez peut-être vous marier, hein, grâce à Dieu, mais tant mieux. Hein, c'est un souhait, mais c'est un engagement important. Et, excusez-moi, il ne faut pas se tromper, parce que bibliquement parlant, il n'est pas question de faire marche arrière. D'accord ? Et ça, c'est la vérité de Dieu. Hein, mais il ne faut pas dire, tiens, ma souris aujourd'hui, je vais me marier avec elle. Non, mais des fois, on voudrait trouver des signes où il n'y en a pas. Si elle me regarde, c'est que je vais me marier avec elle. Mais bien sûr, il va te regarder, tu vas tout faire pour la voir. Hein. D'accord ? Donc c'est un engagement, une décision importante, mais il y a d'autres engagements qui sont importants. Des engagements qui sont très importants. Hein. Et il y a une nécessité d'avoir une direction spéciale de Dieu, une confirmation des choses précises de Dieu. Hein. Et c'est pour ça que ceux qui disent que seules les Écritures contiennent tout, ben oui, mais c'est un petit peu arbitraire et selon sa manière d'être. Et puis l'autre extrême à éviter, et qu'on ne veut pas, c'est être fier de ses profondes expériences mystiques, tellement j'ai vécu de belles choses, et béni soit Dieu pour ce qu'on a vécu. Mais en regardant un peu avec dédain et avec de la hauteur les autres, en disant, bah, moi j'ai vécu ça, pas eux. Regardez l'apôtre Paul, il a vécu des choses comme assez impressionnantes, et vous ne le voyez pas dire, mais moi, hein. Il dit tout simplement qu'il se sent le dernier, le plus petit, l'avorton, il est pas, pourtant il a vécu de belles choses, il pourrait dire, vous devriez tous vivre ces choses. Non, il ne dit pas ça. Il enseigne sur les dons spirituels, il enseigne sur la vie de l'esprit, mais il n'impose pas, il ne regarde pas de haut, il reste humble. De toute manière, l'amour, comme il a été dit tout à l'heure, et l'humilité sont nécessaires dans la vie avec le Seigneur. Alors ces deux groupes-là, ces deux extrêmes, eh ben, ils ont manqué le but, en fait. On manque le but si on ne fait pas attention. Parce qu'eux, ils pensent que le monde, le monde est uniquement naturel, qu'avec un peu d'intelligence, on va y arriver. Et les mystiques extrêmes, ils pensent, eux, que tout est surnaturel tout le temps. Mais en fait, c'est pas faux, c'est faux. Tout n'est pas surnaturel, c'est naturel aussi, en certains moments. Et donc, il faut faire attention, notre vie, on est un peu comme un funambule, hein, entre deux, on peut basculer. Et il faut rester au milieu. L'apôtre Paul le dit, quelqu'un l'a cité tout à l'heure, je crois, oui, dans une prière, dans Éphésiens 4, je vous le lis, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Alors vous allez voir pourquoi je parle de ça. On va parler de la volonté, et là peut-être on pourrait dire qu'il y a trois aspects. C'est là-haut que ça résonne ou c'est dans mon... Non, c'est là-haut, hein ? D'accord. Il y a les enfants là-haut, c'est normal. Trois aspects que j'aimerais rappeler. La volonté souveraine, et tu peux cliquer peut-être, s'il te plaît, voilà. C'est l'univers et ses lois. C'est les lois de la physique et de la nature. Mais vous qui avez été en Canada avec moi, je sais que je l'ai amené quelques fois, mais c'est une révision. Hein. C'est cette volonté qu'on ne peut pas changer. Cette volonté, ce dessein de Dieu que vous ne changerez pas. C'est lui qui a créé les astres, c'est pas vous qui allez dire, bah, tiens, cet astre, je le veux décaler là, celui-ci, je veux là. Ça, c'est de la grandeur de Dieu, ça appartient à Dieu, et ça ne concerne que Dieu. J'avais mis des notes, mais je les ai perdues, je sais pas où je les ai mis, tant pis, c'est pas grave. Hein. Et voilà, l'herbe est verte, les animaux, pourquoi le lion, il a les dents comme ça, et pas droite comme ça. Ça, c'est Dieu qui a décidé, comme il le voulait. Ça, c'est la volonté souveraine. On est tous... toute humanité dans la volonté souveraine de Dieu, dans le sens où Dieu a toute autorité tout le temps. L'autre aspect, si tu peux cliquer, c'est la volonté morale. Comment savoir si je suis dans la volonté de Dieu ? Ben, la volonté morale de Dieu. Hein, et où est-ce que je l'ai mis ça ? Ah oui, je l'ai mis dans l'autre diapo après. La volonté morale, c'est le cadre moral dans lequel Dieu veut qu'on désire qu'on vive. Et la volonté morale, vous la trouvez dans la Bible.
Il y a des fois des personnes qui me disent « Mais moi, je ne sais pas si je suis dans la volonté de Dieu. » Est-ce que vous respectez ce que la Bible dit ? Peut-être pas en tout, mais globalement, oui. Alors, oui, ben, vous êtes quand même dans la volonté morale de Dieu. Si vous respectez ce que Dieu vous dit, vous êtes dans la volonté morale. C'est la parole de Dieu. C'est le code de la vie. C'est le cadre où Dieu me dit « Tu ne fais pas ça. Si tu fais ça, tu vas te retrouver sur ce chemin-là. Par contre, je te conseille de faire ceci. » Il t'invite à faire ça, à croire ça. Et alors, plus j'essaie d'appliquer avec foi, avec amour pour Dieu, de comprendre ce que la Bible me dit, et de dire ça c'est bon pour moi, bah, par exemple quand la Bible dit de ne pas médire, de ne pas calomnier, de ne pas dire des choses, je peux le faire, quand même. Je peux continuer à le faire, mais je peux aussi décider de dire, comme je veux plaire au Seigneur, je me tais. Comme je ne vais pas dire n'importe quoi, je vais faire attention à ce que je dis. Et je vais vraiment aller plus loin. Et je pourrais prendre plein d'autres exemples, bien sûr. Donc la volonté morale, c'est la Bible. Hein, n'attendons pas à Dieu qui nous dise ce qu'on doit faire tout le temps, alors que la Bible nous le dit. Rappelez-vous, dimanche dernier, il y avait un don dans ce sens, un don spirituel. Hein, vous rappelez ? Moi, je me rappelle. Troisième volonté, c'est la volonté spécifique. Ça, la volonté spécifique, c'est cette volonté où il y a une direction précise qui est communiquée. Et c'est là où on rejoint un petit peu ce côté spirituel, où il peut y avoir un don spirituel, il peut y avoir une pensée de Dieu qui sort de la Bible pour moi. Hein, c'est cette volonté spécifique, une direction précise. Par exemple, si quelqu'un est appelé à servir Dieu d'une certaine manière, c'est nécessaire, s'engage une vie entière. Il faut entendre, il faut que même l'Église soit confirme, etc. Et il peut y avoir vraiment un parcours spirituel bien spécifique. Et ça ne sera jamais contraire à la volonté morale, ça ne sera jamais contraire à la Bible. Si un jour un don spirituel dit l'inverse de ce que la Bible dit, eh bien, l'ordre qu'on a tous entre nous, anciens et tout ça, c'est de dire on se lève et on dit à la personne, taisez-vous, ce que vous dites n'est pas juste et pas biblique. Hein? Et je sais que c'est difficile à faire, ça je l'ai fait hein, quelquefois, c'est pas avec joie, et ça arrivera, et ça peut arriver encore. Pourquoi ? Parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu ne va pas dire quelque chose spécifiquement contraire à la Bible. Sinon, ça serait, hein? Dieu ne nous dit pas aujourd'hui tu fais ça et demain l'inverse. Dieu a toujours son plan et sa volonté qu'il va accomplir. Et je suis surpris des fois quand il y a des gens qui disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit » et Dieu te parle tout le temps, comme ça. Ouais, ouais, non, tu as déduit que, c'est pas pareil. Tu penses que, parce que c'est passé au travers de ton intelligence, etc. Alors ça c'est les trois dimensions, je dirais, où on peut se situer. La volonté spécifique, c'est pas tous les matins, tous les jours, que Dieu nous parle directement comme ça. Je pense pas. Je ne pense pas, parce que si je vis dans la volonté morale, pourquoi ? Dieu ne parle pas pour rien dire, excusez-moi le terme. Il ne parle pas pour se répéter tout le temps. Et Dieu parle quand c'est le moment, c'est la décision, c'est le temps de Dieu. Après, il parle au travers de sa parole, c'est-à-dire tu lis, tu écoutes, et ta parole va te guider. Ne soyons pas de ceux qui veulent chercher toujours ce que Dieu nous dit. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Alors qu'il a déjà parlé longtemps, et qu'il dit, regarde, seulement j'ai déjà dit, pourquoi je veux te répéter ? Je ne vais pas travailler ta négligence, je ne vais pas conforter dans ta négligence. Cherche dans la parole et connais la parole. Hein. Je connaissais ces choses, je ne fais que les rappeler. On continue. Les dimensions de la volonté de Dieu, permettez-moi de parler comme ça, j'aimerais donner quelques réflexions, quatre aspects de base de la direction divine, dirons-nous, et après on va aller sur un autre point. Hein. Qu'on soit clair, il n'y a rien de mécanique. Vous comprenez, entre guillemets. Hein, je crois que je l'ai mis, tu peux le mettre peut-être, voilà. Ah non, ben oui, je vais revenir ouais, sur ça, pardon, merci. Vas-y, tu peux les mettre tous, s'il te plaît, toute cette page. Voilà, arrête-toi, ouais, celui-là, tu peux laisser. Vous savez, j'y résume les trois qu'on vient de voir. La volonté souveraine, j'avais oublié, c'est la volonté décrétive, dirons-nous, le décret de Dieu. Hein, c'est cette volonté inconditionnelle, vous ne pourrez rien changer à Dieu, votre position ne changera rien à ce que Dieu a décidé. D'accord ? C'est un plan établi avec la fondation du monde. Voilà, c'est là où il y avait mes notes. La volonté morale, donc c'est la volonté préceptive de Dieu, c'est conditionnel. C'est-à-dire, la condition, c'est quoi ? C'est que toi, moi, nous, suivions ou pas la parole de Dieu. C'est conditionné par ma responsabilité personnelle. Soit je veux suivre le Seigneur, parce que je peux être baptisé et engagé avec Dieu, et pas vouloir suivre Dieu. Abandonner pendant un temps la main de Dieu et dire, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ouais, mais le Seigneur nous encourage à revenir. Hein, c'est de notre responsabilité. Je vais passer à la volonté permissive tout à l'heure. On va venir ici. La volonté spécifique, ça c'est trois axes, c'est la volonté providentielle de Dieu. C'est-à-dire Dieu va pourvoir d'une manière exceptionnelle, il va vous donner quelque chose de précis, un don spirituel. Je pourrais donner des exemples, mais on n'a pas trop le temps. Des exemples où Dieu vous a parlé certainement d'une manière tellement précise que ça ne pouvait pas être à quelqu'un d'autre. C'était adressé à vous, ça c'est spécifique. C'est la volonté providentielle, providence vient de Dieu, hein, vous comprenez ce qu'elle veut dire. Mais il faut savoir qu'il y a aussi la volonté permissive Et je l'ai mis en décalé parce que ce n'est pas essentiel. Vous savez, quand le peuple d'Israël, ils disent « on veut un roi ». On veut, comme les autres nations, un roi. Alors Samuel est en colère, il se sent mal. Et d'ailleurs, lui, il pense qu'il est rejeté, Samuel, mais en fait, c'est Dieu qui dit « ils m'ont rejeté à moi hein. ». Et il va permettre qu'il y ait des rois. Ah, vous voulez des rois, vous en avez. Et il y en a eu. Et puis vous voyez, malheureusement, que c'était d'une théocratie, c'est passé à une monarchie. Et là, ça a été, bien sûr, ils ont fait Dieu a permis de faire comme il voulait. Et on a vu que ça n'a pas été la meilleure des choses. Et des fois, dans notre entêtement, Dieu permettra, il nous permettra d'aller sur le chemin. Ah, tu veux y aller? Ben vas-y. C'est pas que Dieu ne nous aime plus, c'est qu'on est peut-être têtu comme une mule. Pardonnez-moi, c'est peut-être pour ça le début, le premier verset. Hein. On reste là, on veut à tout prix quelque chose, Et des fois, Dieu le donnera, mais ce sera à nos dépens. Et ce sera à pas pour notre bien obligatoirement, non pas que Dieu veut notre mal, mais Dieu veut nous apprendre au travers de ça, que peut-être il faut réfléchir autrement. Ok ? Merci. Allez, on va passer à l'autre. Quatre bases de la direction divine. La première, c'est qu'il n'y a rien de mécanique. Hein, rien de mécanique. Je ne parle pas de ceux qui font la mécanique de voiture. Moi, je ne suis pas compétent. Moi, je conduis les voitures, les autres, ils les réparent. Hein. D'accord ? Ce n'est pas un bouton. Voilà, magique. Vous savez, je ne sais pas si vous l'avez fait. Ne me répondez pas, je ne voudrais pas vous mettre mal à l'aise. Vous savez, il y a des gens qui font ça. Ah, Dieu m'a parlé. Hein ? Peut-être un jour, ça a été. Peut-être tu l'as fait. Peut-être Dieu t'a parlé. Parce que tu étais dans un moment de crise, etc. Mais moi, si tous les matins, ou tout le temps, je fais ça, quelque part, qu'est-ce que j'envoie comme message ? Je prends le livre, la Bible, comme un livre de superstition, presque. Je fais des présages au travers de ce que la Bible me dit. Et ça, c'est une hérésie des plus folles. On n'ouvre pas la Bible au hasard. Parce que si on continue ainsi, on va remarquer que le texte qu'on va lire, il n'a rien à voir avec ce que tu vis. Parce que tu vas lire un jour sur la généalogie, tu vas tomber mince. Ah mince, je tombe entre les deux, l'Ancien et le Nouveau Testament. Bon, moi, il y a des écritures, mais... Oh purée, non, je recommence. Hein. Vous comprenez ? On n'est pas dans la mécanique, on n'est pas dans une forme d'habitude. Là, on se trompera. Bon, mais Dieu connaît notre manière d'être, et des fois, il nous apprend des choses. Bien sûr que ça peut arriver, mais ça ne doit pas être une manière de faire, comme je disais tout à l'heure. Ce n'est pas parce que ça a été une fois que ça doit devenir un mécanisme. Sinon, ça devient une forme de méthodologie. Je rajoute à la Bible des choses qui n'ont rien à voir, et je dis, c'est de Dieu, alléluia, amen, tu peux dire ce que tu veux, ça ne sera rien. Et ça sera terrible. Hein. Alors peut-être vous me trouvez dur. Non, je ne suis pas dur, j'essaie d'être clair pour qu'on puisse comprendre. La deuxième chose, merci, ça s'apprend souvent par une série d'erreurs, d'essais, parfois même d'erreurs et des échecs. Hein, je ne sais pas si vous accomplissez parfaitement la volonté de Dieu, ne me répondez pas. Mais moi, je vous dis, honnêtement, que souvent, je me suis vautré dans ce que Dieu voulait. Peut-être pas pleinement, ou je me suis trompé, j'ai cru que je me suis abusé par de faux raisonnements. J'ai cru que, et j'étais persuadé que, et alors on peut tomber dans une forme d'échec, d'erreur. Hein. Et quand dans ces moments-là, ce que ça demande, ça demande au moins de l'humilité, et puis continuer, se relever et marcher. Comme quand on a appris à marcher, on est tombé plusieurs fois, on ne s'est pas arrêté la première fois qu'on avait les genoux en sang, heureusement, sinon on serait mal aujourd'hui. Hein. Je donne un autre exemple, alors peut-être vous allez... on verra bien. Vous savez, comme en informatique, il y a des enfants, ils naissent aujourd'hui, ils ont tout dans les mains. Hein. Presque à la sortie, on donnera un biberon et puis un truc avec des boutons. Hein. Hein. Mais je plaisante, hein, mais c'est normal, ils vivent dans ce contexte. C'est normal. Je ne sais pas si c'est une norme, peu importe. Hein. Mais par exemple, aujourd'hui, si vous qui avez de l'âge, vous n'avez jamais connu l'informatique, qu'on vous donne un super, votre petit-enfant, il vous achète un super ordinateur. Hein, vous êtes content, hein? Hein, ben, rien à faire. Mais, ben, vous êtes content. C'est même si vous ne savez pas l'informatique. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous décourager. Hein, vous allez abandonner. Vous allez passer à autre chose. Dire, oh, il va être poussiéreux là-bas dans un coin. Parce que vous n'avez pas les bases. Alors vous allez dire, je n'y arrive pas. Et dans la vie chrétienne, des fois, on n'y arrive pas. Des fois, on bloque. Et alors, va-t-on se décourager en disant, ah, ben, je n'y arrive pas, je laisse tout là? Non. Il faut continuer à persévérer. Parce que Dieu va nous faire grâce. Il nous faut de la persévérance. De rechercher encore. Je ne sais pas tout, et vous savez ce que Dieu nous demande, par contre, ce n'est pas d'apprendre de l'informatique. Hein. Ce que Dieu nous demande, c'est qu'il nous donnera toujours les moyens d'atteindre ce qu'il nous demande. Jamais Dieu ne... Par exemple, quand il appelle ses disciples, il ne dit pas, allez, faites toute la nation des disciples, débrouillez-vous, hein. Débrouillez-vous, moi, ben non. Non, il dira, je suis avec vous tous les jours. Il leur enverra l'Esprit Saint. Je vous conduirai dans toute la vérité. Et Dieu, ce qu'il nous demande à faire et marcher dans la vie avec Dieu, il nous donnera toujours les moyens d'y arriver parce qu'il veut collaborer avec nous. Et s'il nous appelle à quelque chose, il nous donne la force de le faire. Et s'il t'appelle à être fidèle, il te donnera la capacité d'être fidèle. Seulement crois en lui et ne crois pas en toi. Crois en lui.
Hein, crois bien qu'il t'aidera.
Et si vous êtes jeune dans la foi, là, je pense à tous nos jeunes, je vous encourage à ne pas vous laisser abuser, à dire « j'y arriverai pas ». Bien sûr, humainement, tu n'y arrives pas. Mais le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Et tu y arriveras. Il y a beaucoup de gens, quand ils veulent se faire baptiser, 99,9% disent « mais une chose qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas si je serai fidèle jusqu'au bout ». Ah bah alors, bienvenue au club, moi non plus, mon gars. Hein, moi, fille. Parce que, pourquoi ? Bah parce que je ne sais pas si demain je serai fidèle. Mais je sais que si le Seigneur il appelle, il donne les forces pour y arriver. Alors crois que le Seigneur, jour après jour, te donnera ce qui est nécessaire, mais reste sur la bonne position, bien sûr. Troisième chose, ce ne sont pas des méthodes, mais une obéissance à un ensemble de pratiques. Je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la méthode qui sauve, c'est l'obéissance de la foi à l'égard de ce que Dieu me dit. On apprend sur le tas au fur et à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne. Je ne peux pas être très mature dans la foi si je viens de naître de nouveau hier. Pourquoi ? Ben parce que j'ai besoin d'apprendre. Et là aussi, ne vous découragez pas, vous qui êtes jeune dans la foi. Plusieurs se disent, mais comment je vais arriver jusqu'au bout ? Alors, lui, c'est plein de choses. Et elle, oh, mais moi, j'y arriverai jamais. Mais oui, tu n'y arriveras pas aujourd'hui. Mais peut-être dans quelques semaines, tu y arriveras. Parce que Dieu t'alimentera, te fortifiera, t'encouragera par sa grâce. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, dira un psaume, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Hein ? D'accord ? Il n'est pas dit aussitôt, tout le temps, parfaitement, rapidement. Il est dit, ils trouveront des chemins tout tracés, mais maintenant, il faut y aller sur ces chemins. Ce n'est pas chose facile. Autre aspect, la direction divine est très personnelle. Ce qui s'applique à l'un ne s'applique pas obligatoirement à l'autre. Ça ne veut pas dire que, par exemple, il faut pas, certains vont naître de nouveau, d'autres non. Ce n'est pas ça. Hein. Tout le monde doit naître de nouveau, selon la Bible. Mais ça veut dire que des fois, certaines expériences, vous allez être touché, vous allez vivre quelque chose de formidable, particulier en particulier pour vous, pour votre vie. Et vous allez dire, mais pourquoi les autres ne vivent pas en même temps que moi ? Et tu devrais, et toi tu le fais, tu te le secoues et tu fais comme moi. Eh bien, tu peux toujours courir. Pourquoi ? Parce qu'il est différent, elle est différente. Et c'est pas parce que je vis quelque chose que je suis la référence. C'est la Bible qui est la référence. Par contre, ce que je sais, c'est que ce que je vis, Dieu me le donne et d'autres vivent des choses formidables. C'est pour ça que la Bible dit d'estimer l'autre supérieur à soi-même, comme pour dire on n'est pas dans un concours de comparaison d'expérience. On est dans la marche avec le Seigneur. Et s'il y en a qui vivent des choses qui ça leur est personnel, mais vous savez, la meilleure part, c'est quand on n'impose pas aux autres. Quand on propose et qu'on vit sa vie. Et puis surtout, peut-être parce que nous, on a peut-être un peu plus besoin des fois d'être remué que l'autre à côté, qui lui est plus sensible. Et y arrive plus facilement, ça dépend des personnes. Donc il n'y a pas, ça varie d'un individu à l'autre. Ce que Dieu demande à l'un, il demande à l'autre. Regardez, je vous donne un exemple. Un médicament, vous prenez un médicament. Vous, ça vous donne... Bon, je ne dis pas parce que ma femme, elle n'est pas là, j'en profiterai, mais vous allez lui rapporter, j'en suis sûr. Parce qu'il y a, beaucoup de... Non, je plaisante. Hein. Mais par exemple, un médicament. Moi, je prends certains médicaments, des fois, pour des allergies et tout ça, et ça me donne un petit coup de barre. Et je vois ma femme, elle se moque de moi. Mais que c'est douillé, hein. Elle dit ça, pourquoi ? Parce qu'elle prend des trucs qui pour d'autres choses, que moi ça me tournerait l'estomac, et elle te prend ça comme des bonbons. Elle n'aime pas ça, hein. Elle est obligée de les prendre, hein, par rapport au diabète et tout ça. Et elle me dit, bah, si tu prenais ça, bah, j'ai dit non, je ne prends pas ça moi, je prends que ça moi, une fois de temps en temps. Et le médicament n'a pas le même métabolisme, c'est-à-dire que moi je prends un médicament, il va avoir un effet particulier, et vous allez rire, vous allez dire, c'est rien, c'est une pastivalda, hein, d'accord ? Et vice-versa, pourquoi ? Parce qu'on a tous un métabolisme différent. Et bien dans la vie spirituelle, il en est de même, on est tous différents, mais on a le même Seigneur. On est tous différents, mais on peut faire un corps ensemble. On est tous différents, mais Dieu veut faire grâce. Alors, ne poussons pas les autres à faire notre expérience, à vivre à notre place, même si des fois vous lui dites « tu devrais prendre ça comme huile essentielle, comme un médicament, hein. Il y a des spécialistes parmi nous. Je ne veux pas me moquer parce que je ne voudrais pas avoir d'ennui à la sortie tout à l'heure. » Je voudrais aller, c'est mon deuxième point. Après, on finira pour le deuxième point. Si tu peux mettre la suite, s'il te plaît. Voilà. Alors, j'ai mis ce chemin, hein. Pour dire sur la voie, sur le chemin sur lequel on est, le chemin de Dieu, comment Dieu nous guide-t-il ? Ben, vous le savez très bien. Le premier, c'est, tu peux cliquer une fois, voilà, par sa parole. Par sa parole. C'est une évidence. Hein. Quand Paul dit par exemple, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps, les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Hein. C'est une évidence, la parole nous guide. Quand dans Romains 12, vous le connaissez, mais je vais vous le lire dans une autre version, vous savez, quand il dit « ne vous conformez pas au siècle présent », il va dire « ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer, vous donner une intelligence nouvelle, vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. » Vous savez, quand nous on le lit dans nos versions Louis II, il dit « se transformer par une intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. » Et nous on pense que c'est parfait pour nous, c'est bien pour nous, elle est bonne pour nous, donc si les circonstances sont favorables, c'est que Dieu est avec moi, si les circonstances me dérangent un peu, c'est pas la volonté de Dieu. Non, vous ne trompez pas. Dans ce passage, il n'est pas dit ça. Il est dit, vous pourrez discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien pour Dieu, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Vous voyez, ce n'est pas ce qui est bien pour moi, mais ce qui est bien pour lui. Et ce qui est bien pour lui, des fois, pas les mêmes choses que ce qui me semble bien pour moi. Et là, il faut laisser la priorité à la parole de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous êtes avec moi? Oui? D'accord. On continue. La Bible dira, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Hein? Alors, comment Dieu nous guide-t-il sa parole, mais aussi il va, dans cette communion qu'on a avec lui, il va susciter en nous ce désir de l'aimer, de le suivre. Vous savez, quand la Bible dira dans Hébreux, elle dit ceci, 12, dans certaines versions, je trouve que ce n'est pas très bien mis en évidence, il dit, il est l'auteur de la foi, il suscite la foi, et, bon, attendez, je le remets dans l'ordre, hein, il suscite la foi, il est l'auteur de la foi, non, je me mélange, ça va revenir, excusez-moi, hein, et l'amène à la perfection. Il est l'auteur de la foi et l'amène à la perfection. C'est-à-dire que c'est Jésus qui nous a attirés par son esprit, nous a convaincus, il nous a touchés, et il est l'auteur de cette foi qu'il a plantée en nous, et cette foi va devenir vivace, il la suscite, c'est-à-dire il va l'amener à vivre, à se développer, et il veut l'amener à la perfection. C'est là l'intention de l'Esprit de Dieu et de Dieu pour nos vies. Donc il va mettre en nous ses désirs, ce désir profond de l'aimer. Qu'est-ce qui fait qu'on aime Dieu ? Finalement, des fois, voilà, on ne saura pas dire vraiment dans tous les détails pourquoi j'aime Dieu, finalement. J'aime Dieu parce qu'il m'a rencontré et qu'il a donné et il a suscité en moi cet amour pour lui et je le cherche et je le cherchais et c'est la grâce de Dieu. Donc nos désirs, mais quand on est en communion avec lui, parce que quand je ne suis plus en communion avec Dieu, mes désirs sont contraires. Ça ne vous arrive pas, ça, vous ? C'est moi aussi. Troisième chose, la prière. Alors j'aurais pu mettre autre chose, hein, vous voyez, hein, je ne sais pas si vous voyez. La prière. La prière, pourquoi la prière ? Parce que bien sûr, la prière, c'est cette partie de communion avec Dieu, cet échange, mais aussi pour demander la sagesse. Vous savez, quand Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement, et sans reproche, et elle lui sera donnée. Des fois, dans la volonté de Dieu, on n'est pas sage. Hein. Surtout quand on est jeune dans la foi, on a envie de démonter ciel et terre, et c'est très bien, mais des fois, on fait des espèces de bourdes, il faudrait mieux de se rattraper. Et parfois, c'est normal, hein, c'est la vie, mais le Seigneur veut nous donner la sagesse, de l'intelligence pour témoigner à nos collègues, de l'intelligence pour rester ferme dans la foi. La prière aussi pour recevoir la paix de Dieu, parce qu'on le sait quelque part au fond de nous, il y a comme la présence de l'Esprit atteste qu'on est sur la bonne voie, ou des fois, on manque cette assurance. On manque cette conviction de paix où le Seigneur dit « Je suis avec toi, là, t'inquiète pas, je suis avec toi. » Au fond de vous, vous savez que vous êtes dans la paix. Mais des fois, le voyant s'allume, vous savez, le tableau de bord, je peux l'ignorer. Hein. Je peux dire « Oh, je continue, je n'ai rien à faire. » Et je peux dire « Dieu veut me parler, et moi je ne regarde pas, je fais semblant de ne pas voir, et Dieu me respectera. » Mais il m'aime. Et des fois, il m'avertit. Des fois, il me dit « Regarde, il y a quelque chose qui ne va pas. » Je ne sais pas vous, mais moi, des fois, quand je suis en situation compliquée, j'ai besoin d'être rassuré dans certains moments. Et je me dis, là, et à certains sujets, des fois, de relations ou autres, je sais que j'ai besoin de faire un pas, mais j'ai du mal à le faire de suite. Alors je vais attendre un peu, et ça me travaille. Mais quand j'ai fait le pas, il y a une espèce de libération qui est là. C'est pas, ça ne vous arrive pas, ça, hein ? Si, ça vous arrive, comme à moi. Pourquoi ? Parce que la paix de Dieu est nécessaire. Un autre aspect, voilà, ici, alors vous ne le voyez pas, c'est un roi hein, qui est sur son trône, et il y a une main là, il y a un conseiller qui est là. Et souvent, dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, on retrouve ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent, quand il y a certains prophètes qui sont auprès du roi, la royauté se maintient. Il y a quelque chose qui se passe. Mais le prophète décède, le conseiller n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe ? La royauté est complètement hirsute, ça va dans tous les sens, ça devient la panique. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, il y avait un prophète qui encourageait le roi qui arrivait, le roi avait une certaine crainte, il y avait comme un soutien. Mais voilà que maintenant, ce prophète décède, je pourrais citer plusieurs rois, mais je ne vais pas le faire, on n'a pas le temps, ce conseiller n'est plus là, et c'est fini. Et là, le livre des Proverbes dit, au chapitre 12, verset 15, « La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. » C'est-à-dire que croire que par nous-mêmes, on n'a pas besoin des autres tout le temps, c'est une folie. On a besoin du corps de Christ. Et si vous croyez que vous pouvez vivre sans l'Église, vous vous trompez. Dieu l'a voulu ainsi. Pourquoi ? Mais parce qu'ensemble, on va se conseiller. Je ne dis pas qu'on doit étaler sa vie devant les autres, mais des fois, dans certains moments, dans certaines directions, on n'a pas toute la sagesse qu'il faut. Et on a besoin d'être conduit par le Seigneur, d'être amené à aller plus loin. Je vais aller maintenant sur le dernier aspect, c'est les circonstances. Les circonstances. Ça, c'est le dernier. La priorité est dans l'ordre un petit peu, la parole. Hein, la parole en premier. Mais les circonstances. Quand on commence à voir si je suis dans la volonté de Dieu par les circonstances, le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, verset 11, dira « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Les circonstances. Hein ? La difficulté, c'est le regard que je porte sur les circonstances que je traverse. Et ce que je disais tout à l'heure au départ, en introduction, ça passe par vos émotions. Mes émotions, nos émotions, ça passe par notre vécu, notre histoire, ça passe par nos échecs aussi et nos situations compliquées qui nous ont sensibilisés ou traumatisés, je ne sais pas si c'est le terme, hein, qui nous ont orientés, fait réagir, etc. Hein. Par exemple, pour la même circonstance, on peut penser que pour la même situation, on pourrait parler d'une situation avec deux ou trois ou quatre, il y en a qui pourraient dire « Ah mais c'est Dieu qui ne veut pas là, dans cette situation, parce que vous voyez l'opposition là qu'il y a, Dieu ne veut pas ». Quelqu'un pourrait me dire « Ah, c'est Satan qui s'oppose à nous !» Eh oui, Satan, il combat contre nous, etc. Et c'est pas fou en soi, hein. Comme l'un, comme l'autre, n'ont pas tort. Et un autre pourrait dire « De toute manière, c'est toujours comme ça. Hein. Ça fait des années que c'est comme ça, ça durera, c'est toujours comme ça. C'est pareil dans ma vie, donc, ouais, ok. » Et chacun pourrait dire la sienne, en fait. Et chacun pourrait avoir des arguments, même bibliques, pour essayer de justifier certaines choses. Et c'est là la difficulté qui réside dans le regard que je porte sur la situation. Alors lisons ensemble dans Jérémie 42, je suis un peu long aujourd'hui, excusez-moi, je voulais faire plus court, mais Jérémie 42, bientôt fini. Hein. On va voir justement quelque chose qui est important. Parce que je peux prier, oh Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux faire ta volonté, je peux avoir le discours, hein. Seigneur, je veux faire ta volonté, montre-moi là, Seigneur, je l'accomplirai. Hein. Regardez dans Jérémie chapitre 42, verset 2. Je vais éviter les noms, hein, au début il y a tout un tas de noms. Verset 2. Ils s'approchèrent de Jérémie et dirent au prophète Jérémie, « Que notre supplication parvienne devant toi, prie l'Éternel ton Dieu en notre faveur, en faveur de tout ce reste. Car nous étions beaucoup et nous restons un petit nombre, ainsi que tes yeux les voient. Que l'Éternel ton Dieu nous révèle la voie que nous devons suivre, et ce que nous avons à faire. » Le prophète Jérémie leur dit, « J'entends, voici, je vais prier l'Éternel, votre Dieu, selon vos paroles, et je vous révélerai, sans rien vous cacher, toute parole que l'Éternel vous répondra. » Ils dirent à Jérémie, « Que l'Éternel soit contre nous, un témoin véritable et fidèle, si nous n'agissons pas selon toute parole que l'Éternel, ton Dieu, t'aura envoyée pour nous. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous-mêmes nous t'envoyons. Ainsi nous serons heureux pour avoir obéi à la voix de l'Éternel, notre Dieu. » 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Jérémie appela Yohanan, fils de Caréa, tous les chefs de l'armée qui étaient avec lui et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé pour que je fasse parvenir votre supplication devant lui. Si vous continuez à habiter dans ce pays, je vous y édifierai et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas, car je regrette le mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone, devant qui vous êtes dans la crainte, ne le craignez pas, oracle de l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je vous témoignerai de la compassion et la compassion de vous et vous fera revenir sur votre sol. » Alléluia, hein. C'est bon, hein. Dieu parle et il entend. Et puis Dieu avertit. Et puis, je me permets, vous lirez chez vous tout le chapitre, au verset 20. verset 19. Et vous pourrez lire le 43 chez vous. Hein. Reste de Judas, verset 19. L'Éternel vous le dit, n'allez pas en Égypte, sachez-le bien, je vous en conjure aujourd'hui, vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel votre Dieu en disant, prie l'Éternel notre Dieu en notre faveur. Et tout ce que l'Éternel notre Dieu dira, révèle-le-nous, et nous le ferons. Je vous le révèle aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez-le bien maintenant, vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste dans le lieu où vous allez pour y séjourner. Et si vous lisez chapitre 43, vous verrez, ils sont allés en Égypte. Alors, c'est quand même, des fois, on est un peu comme ça. Je ne sais pas vous, mais un peu comme ça. Seigneur, montre-nous ce qu'il faut faire. Seigneur te le montre. Et moi, je fais autre chose. Eh ouais, mais c'est sérieux. Parce que là, ils ont laissé la peau. Hein. Et je crois qu'il nous faut être conscients de ces choses. Hein. En demandant à Jérémie une parole de Dieu, ils désirent simplement une approbation divine, en fait, sur leur décision à eux. Mais comme ça ne va pas dans leur sens, qu'est-ce qu'ils font? Ils braquent. Ben moi, excusez-moi, hein, dans ma vie de pasteur, j'ai connu beaucoup de situations comme ça. De personnes qui, si ça ne va pas dans leur sens, se bloquent. Pourtant, la Bible dit ça, ou pourtant, il semble que c'est ça, et Dieu montre que c'est ça. Et il y a une volonté de s'entêter. Pourquoi? Pourquoi ça? Hein? Je vous laisse répondre vous-même. En fait, c'est comme si la pièce rouge du puzzle, là, vous voyez, en haut, là, la rouge, vous la voyez? C'est comme si elle ne voulait pas être là. Je ne veux pas être là, je veux être là. Hein? Et alors, tout à mettre en place pour essayer de se déplacer, alors qu'elle est faite pour être là. Et Dieu, des fois, va nous montre un chemin, et nous, parce que, ben, je ne sais pas, on est embarqué dans nos émotions ou dans nos pensées, on peut se tromper. Non, mes frères et sœurs, faisons attention à ce que Dieu veut nous laisser percevoir au travers de toutes ces choses qui, des fois, sont subtiles. Dieu veut nous parler. Hein. Il nous faut être patient, je termine par cet aspect. Il nous faut être patient. Dans la marche avec Dieu, dans la volonté de Dieu, je vais vous donner un exemple qui me revient à l'esprit, je n'avais pas pensé à cet exemple. Quand je suis rentré dans le ministère il y a 30 ans en arrière, je ne sais pas pourquoi, j'avais le sentiment un jour que je serais albi. Ce qui est impossible du fait que, en tant que pasteur, on, normalement, on ne revient pas dans l'église où on est né de nouveau. Normalement. Et j'étais au début, tout à fait au début, quand j'étais sur Moissac, ça faisait 4 ans que j'étais à Moissac, et je savais que je serais sur Albi. Et donc je voyais les changements arriver, je me suis dit, Seigneur, peut-être tu veux nous amener à Albi en formation et on partira ailleurs. Jamais, rien, jamais plus. Hein, et c'est tombé comme ça, aux oubliettes. Et puis franchement, moi je ne cherche pas une ambition quelconque dans le ministère, hein, si ce n'est de faire la volonté du Seigneur, bien maladroitement des fois, je vous l'accorde, comme tout un chacun. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Et quand, des années après, on m'appelle pour venir sur Albi, on m'a appelé, hein, je n'ai pas venu chercher quoi que ce soit, je n'ai même pas pensé à ça. C'est des mois après, je dis, mais c'est vrai, j'avais pensé ça. Je disais à ma femme, tu te rappelles quand je te parlais de ça, et tout ça, on discutait de tout ça. Et comment, des fois, on a des ambitions qui sont là. Rappelez-vous, un jour, le prophète Samuel dit à Saül, tu attendras que je sois là pour sacrifier, je viendrai sacrifier, tu attendras le jour, etc. Et vous savez que Saül s'impatiente et il va faire les choses qui lui sont interdites. Normalement, ce n'est pas le roi qui sacrifie, c'est le sacrificateur qui a été oint par Dieu. Il n'est pas question qu'on inverse les rôles. Seul Jésus était sacrificateur, roi, etc., prophète. Seul lui avait toutes les fonctions. Mais ici, Saül ne l'avait pas. Et quand il y a cette fameuse attente de 7 jours, il y a eu la bataille contre les Philistins, ça a été la victoire, etc. Hein, et Samuel est tard, même le 7e jour, il n'arrive pas au début du jour. Il arrive pratiquement tardivement. Alors Saül, qui s'est permis des choses, il a été impatient, ben voilà, qui s'est fait disqualifier à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il n'a plus été roi, Dieu l'a renié, l'a rejeté, parce qu'il n'a pas obéi. Et des fois, dans notre impatience, on peut brûler des étapes et on va se mettre dans des situations compliquées. Et j'aimerais nous dire que la volonté de Dieu, des fois, elle est bonne, c'est vrai pour lui, elle est agréable, elle est parfaite, mais des fois, il faut savoir être patient. Et nous ne pouvons pas provoquer, nous, le plan de Dieu. Nous ne pouvons pas l'accélérer en essayant de donner un coup de pouce à Dieu. Dieu a son temps. Et souvent, aujourd'hui, dans ce monde, on est pressé tout le temps. Dieu va nous amener à revenir sur la... à freiner un petit peu. Voilà. Et on a une vie devant nous. Et il serait dommage qu'on fasse des sorties de route comme Saül, qui lui, pendant plusieurs fois, il va passer, faire des mauvais choix, il va se retrouver disqualifié. Et si tu veux pas, si je veux pas souffrir, il faut que je suive la volonté de Dieu. Parce que si je brûle les étapes, ça va me mettre dans un pétrin où le Seigneur m'aide, hein, il ne m'abandonne pas pour autant. Hein. Mais ça va me mettre dans un pétrin difficile. Alors je ne menace pas, je veux nous encourager à dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Je finis par ce verset pour conclure, c'est dans le psaume 95. Je vous le lis. « Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » Alléluia. Le troupeau que sa main conduit. Et juste après, « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, aujourd'hui, dira-t-il, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à la révolte de Mériba, etc. » Il va décrire les choses. Nous sommes le troupeau que sa main conduit. Alléluia. Il conduit nos vies, il conduit ta vie, mon frère, ma sœur. Et il veut t'amener pleinement dans son chemin, dans le plan qu'il a prévu pour toi, dans le plan d'intégrer une église, d'agir dans l'église, d'être à l'œuvre de Dieu, dans toutes ces choses. Il veut faire ces choses pour toi, mais n'endurcis pas ton cœur. Et je ne veux pas l'endurcir non plus, parce que Dieu veut se glorifier. Alors, oui, comment discerner, savoir si nous sommes dans la volonté de Dieu, ce n'est pas toujours simple, mais si tu as un cœur vrai et honnête et tu cherches Dieu, il ne t'abandonnera pas, il te montrera. Il te montrera, il te parlera de diverses manières, mais il sera avec toi, mais aussi il sera avec nous, parce que nous sommes un troupeau, nous ne sommes pas tout seuls dans notre coin, nous sommes le troupeau de Jésus-Christ, et c'est lui qui nous conduit. Amen. On prie ensemble, je vois qu'il y a des enfants qui sont là, donc je ne voudrais pas les vous faire tarder, et après on se sépare. Oui, ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Peut-être pas à nos yeux parfois, peut-être pas à nos conceptions. Mais notre désir, ce n'est pas que nous soyons bien. Notre désir, c'est que nous t'honorions en marchant fidèlement dans tes voies. Merci pour ton peuple, merci pour l'Église, merci pour ces frères et sœurs qui sont là et d'autres qui sont absents. Ceux qui sont en Zoom, tu les bénis, Seigneur, de diverses manières. Aide-nous à ne pas nous tromper par tout un tas de pensées qui seraient que, Seigneur, les déductions de notre mentalité. Fais-nous grâce pour avoir l'état d'esprit que tu veux, la mentalité que tu souhaites, le cœur que tu veux que nous ayons, pour que ta volonté s'accomplisse pleinement dans nos cœurs. Pardonne-nous toutes les fois où on savait, on a fait comme le peuple, on a fait autre chose. Alors apprends-nous à obéir de plus en plus, apprends-nous à marcher à ta suite. Bénis les jeunes gens aussi qui sont jeunes dans la foi, ceux qui sont, Seigneur, peut-être nés de nouveau depuis peu, tu vois, ceux qui peut-être tâtonnent, ceux qui, Seigneur, des fois reculent un petit peu sur certains aspects, mais tu es patient. Tu redonnes un renouveau de vie à chacun. À toi toute la gloire, Seigneur. Merci pour tout ce que tu accomplis et pour ce que tu vas faire. Nous te donnons toute la gloire. Nous te disons, Seigneur, conduis cet après-midi, cette journée, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Je me suis trompé. J'ai mis sur un newsletter qui avait mon rendez-vous cet après-midi. C'est pas cet après-midi, c'est dimanche prochain. Hein. Voilà. Je suis désolé.